France Inter, le 18-20.
Ce n'était pas forcément le cas avant, mais désormais, à chaque crise sociale, la question des forces de l'ordre se pose, donc la question du maintien de l'ordre. La dernière fois, de manière aussi prégnante peut-être, c'était pendant les manifestations autour de la loi travail, donc pas si longtemps, et cette fois-ci particulièrement avec la crise des gilets jaunes. L'un des acteurs principaux de ces questions d'ordre, le fameux LBD, lanceur balle défense, conservé par le Conseil d'État ce vendredi, le risque de violence rend nécessaire de permettre aux forces de l'ordre de recourir à ces armes, fermez les guillemets, c'est ce que dit le Conseil d'État. État utilisé plus de 9000 fois, responsable de blessures typiques et notamment à l'œil. Il y a eu aussi 116 enquêtes de l'IGPN, la police des polices. Dans le même temps, on vote demain cette fameuse loi anti-casseurs qui est loin de faire l'unanimité et qui normalement sera votée demain et qui rend certains interdits de manifestation comme on interdit de stade pour lutter contre le hooliganisme. Derrière tout ça, donc, faut-il revoir nos moyens, faut-il revoir nos méthodes de maintien de l'ordre, nos pratiques pour pourquoi une telle défiance, notamment avec les fameuses caméras piétons dont on reparlera peut-être. Les manifestants sont parfois violents, ça c'est certain, mais comment adapter la réponse? Faut-il réécrire l'usage des armes, réécrire la sommation, évaluer la dangerosité des munitions, mieux informer la foule aussi? Autant de questions qui sont les vôtres au 01 45 24 7000.
Synthèse. Le téléphone sonne.
Nathalie, c'est vous qui commencez. Bonsoir et soyez la bienvenue.
Bonsoir France Inter, merci de m'écouter. Alors, moi je voulais simplement dire que les grands médias semblent découvrir ce problème de violence policière dans le maintien de l'ordre en manifestation, mais c'est pas nouveau, c'est très ancien, parce qu'en 2014, déjà une commission d'enquête parlementaire, présidée par Noël Mamère, s'est tenue à ce sujet-là.
Alors, très ancien, 2014, très ancien, Nathalie, si je puis me permettre. Non, c'est pas très ancien, c'est assez récent. Et 2014, vous me parlez des commissions après la mort de Rémi Fraisse, c'est ça l'idée?
Alors, cette commission s'est tenue effectivement après la mort de Rémi Fraisse, mais elle s'est tenue aussi parce qu'un nombre important de blessés, de mutilés par des blessures de flashball envoyées par la police, ces blessés se multipliaient, notamment au cours des manifestations. À Nantes, il y en a eu 3 le même jour, le 22 février 2014. Il y avait eu en 2007 un jeune lycéen qui avait été éborgné aussi au cours d'une manifestation à Nantes. En 2008, d'autres personnes à Montreuil. Enfin, les blessés commençaient à se multiplier. Donc c'est pas nouveau.
Merci beaucoup Nathalie pour cette entrée en matière. Alors pas nouveau en effet, hein, je veux bien vous l'accorder. Et en même temps, moi j'ai un peu l'impression, peut-être que nos invités vont me contredire ou pas, que ces derniers temps ça se pose de manière un peu différente. Pour répondre à votre question Nathalie, pour renchérir sur votre marque et sur celle des autres évidemment, et jusqu'à 20h, Patrice Pinozier, là bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat de la Ligue des Droits de l'Homme et Grégory Joron est là. Bonsoir Monsieur Joron.
Bonsoir.
Vous êtes délégué national CRS du syndicat SGP Police FO. L'un après l'autre, mais Patrick Spinozzi, est-ce qu'on en parle différemment aujourd'hui? Est-ce qu'il y a effectivement un avant, un après, on va dire peut-être 2015 environ, depuis les lois de travail, peut-être avant effectivement, comme le dit Nathalie, avec Rémi Fraisse, mais il y a un discours autour du maintien de l'ordre et des armes qui sont utilisées qui est peut-être pas le même qu'auparavant, non?
Ce qui me semble certain, c'est qu'il y a effectivement régulièrement eu des problèmes avec l'utilisation de certaines armes pour le maintien de l'ordre et que ces problèmes ont été régulièrement dénoncés. Mais la réalité, c'est que avec la crise des gilets jaunes, on voit bien que on est confronté à un nombre extrêmement récurrent de manifestations et on voit d'un seul coup toutes les difficultés que peuvent produire en termes d'atteinte à l'intégrité des manifestants l'utilisation de certaines armes. Alors, on a parlé du flashball. Le flashball, effectivement, était utilisé auparavant, précisément. On a arrêté d'utiliser le flashball. On a conservé aujourd'hui le LBD. Il est véritablement en discussion et très controversé. Avec la Ligue des Droits de l'Homme, nous avons tenté d'en obtenir la suspension devant le Conseil d'État, ce qui n'a pas abouti. Nous continuons à nous battre sur d'autres terrains et je pense qu'il y a une vraie réflexion à engager sur l'utilisation de ces armes pour le maintien de l'ordre et c'est bien la question que nous continuons à poser aux juridictions.
Grégory Joron, quand on emploie ce genre d'armes, est-ce qu'on a la trouille en fait, quand on est de votre côté, parce que vous savez effectivement que ça peut potentiellement être dangereux, est-ce que c'est quelque chose une question qu'on se pose quand on voit autour de soi tout ce qu'on peut dire en ce moment sur le LBD, mais effectivement qu'on disait aussi sur les flashballs précédemment, est-ce qu'on a la trouille quand on tire avec ça quand même en se disant j'ai dans la main quelque chose qui peut potentiellement potentiellement faire des dégâts.
Il n'y a pas de policier qui se lève un matin en se disant tiens chouette aujourd'hui je vais borgner quelqu'un. On a la trouille. Les policiers gèrent des situations de crise extrêmement violentes. Ils ont au quotidien une arme de poing à la ceinture. On est habitué à vivre avec, et surtout à peser ce qu'on va faire parce qu'on sait très bien qu'il peut y avoir un risque irréversible quand on emploie une arme. S'agissant du LBD simplement du prisme du CRS que j'étais, en tout cas sur le terrain, on a une utilisation qui est extrêmement cadrée de cette arme-là. C'est en effet pas une arme de dispersion, donc au niveau de la gestion qu'on peut en faire sur le maintien de l'ordre, elle doit avoir un but premier et primaire, on va dire, c'est de pouvoir nous permettre de neutraliser un risque. Je parle par exemple du risque cocktail Molotov qui s'est développé ces dernières années, où là en effet à 30 mètres ou 20 mètres, qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit quelqu'un arriver avec un cocktail Molotov dans la main, qu'on sait c'est une arme de guerre qui peut avoir des blessures pour le coup irréversibles aussi et un danger très grave pour mes collègues sur le terrain. Face à ça, quelle réponse on a aujourd'hui? Le LBD. On n'a que ça. Et je passe, bien sûr, d'autres risques.
Mais auparavant, vous aviez le flashball, et je pense que les réponses étaient, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a le flashball, et on n'a que ça.
Le CRS n'avait pas le flashball.
Alors non, mais enfin, bon, je veux dire, les forces de l'ordre, d'une manière générale, enfin, vous voyez.
Oui, sauf qu'elles étaient un peu moins engagées sur les maintiens d'ordre, parce qu'on paye aussi une politique, j'ai envie de dire. Les forces mobiles sont souvent considérées ou déconsidérées par les politiques à partir du moment où on n'a pas de mouvements sociaux d'ampleur. Ça a été le cas de 2005 à 2015, quasiment, où finalement, on a fait beaucoup de sécurisation dans les quartiers, où on a un peu perdu de vue le fait que ça pouvait être important d'avoir des forces mobiles en nombre, et où on a réduit le nombre de fonctionnaires dans les compagnies et un nombre d'escadrons également. Voilà, on en est là aujourd'hui.
Est-ce qu'on a un peu le sentiment, Patrice Prinozzi, que d'un côté comme de l'autre, en fait, on a du mal à savoir répondre aujourd'hui à des manifestations qui ne ressemblent pas à des manifestations telles qu'on pouvait les connaître, j'allais dire, autrefois? En gros, on ne sait pas quoi utiliser, pour dire les choses clairement.
Bah alors, ce qui est sûr, c'est que on utilise ce qu'on a. Et aujourd'hui, il y a la possibilité d'utiliser le LBD, et que si demain il n'y a plus de LBD, eh bien nécessairement, on ne pourra plus utiliser cette arme. Donc, il y a un certain nombre de pays importants en Europe qui font du maintien de l'ordre sans LBD. Et le LBD est une arme, à mon sens, qui reste assez archaïque. Alors, évidemment, il va falloir former les gens à pouvoir travailler sans LBD. Et la question de la formation, elle est déterminante, parce que j'entendais ce que vous disiez, monsieur, et je crois très certainement, effectivement, que les CRS sont formés au maintien de l'ordre. Mais dans les manifestations de très grande envergure, comme on les a connues là, évidemment, on va chercher à appuyer les CRS d'autres agents qui, eux, ne sont pas forcément formés au maintien de l'ordre et qui vont utiliser eux aussi les LBD. Et utiliser un LBD, c'est une arme, et évidemment vous ne le faites pas si vous n'êtes pas habilité à pouvoir le faire, mais il n'empêche qu'on a bien vu que, eh bien, il fallait une formation particulière, un sang-froid particulier, qu'on ne s'invente pas être quelqu'un qui maintient l'ordre, et que il y a pu y avoir effectivement des bavures ou des erreurs qui sont intervenues par des personnes qui ont surréagi ou ont mal réagi avec l'utilisation de cette arme.
Avant de retourner au standard, Grégory Joron, là-dessus, une fois qu'on a cette arme, qu'on donne cette arme donc aux personnes en charge du maintien de l'ordre, à quel moment est-ce qu'on est formé? Est-ce qu'on l'est de manière récurrente au fil de sa carrière? Parce qu'après tout, il n'y a pas des manifestations de ce genre tout le temps dans une carrière de CRS, de policier, etc. Est-ce que vous êtes remis à jour, en gros, très régulièrement avec ce genre d'appareil ou pas?
Tous les ans. Donc on a une habilitation qui ensuite est soumise à un tir annuel
avec cette arme, avec cette arme-là, avec
le LBD. Mais le sujet de la formation est bien sûr évident, mais au-delà même du LBD, quand on dit qu'un policier tire à minima 3 fois par an 30 cartouches avec son six hour, mais que finalement le minimum se transforme en maximum parce que c'est une question de coût et aussi de temps, parce que les collègues ont besoin, on a besoin besoin des fonctionnaires de police sur le terrain et qu'aujourd'hui on n'en a pas assez pour allier les deux. Voilà, la formation dans la police, on en manque cruellement, ou en tout cas de formation continue, c'est une évidence. Ouais.
Qui donne l'ordre et dit maintenant la situation est telle qu'il faut faire usage de des LBD? Comment ça se passe dans ces cas-là?
Il y a deux cadres qui sont importants. C'est le cadre de réaction et bien évidemment le cadre, on va dire, d'usage de la force légitime. Donc le cadre de réaction, vous pouvez user le LBD sans sommation, on va dire, à partir du moment où vous êtes en légitime défense.
J'allais vous poser la question de la sommation.
Voilà. Où vous êtes en état de légitime défense, ou en état de nécessité, ou dans le cadre du code de sécurité intérieure. Ou par exemple, si on vous demande de tenir un certain point et que malgré tout vous n'arrivez pas à les tenir et que vous êtes obligé d'engager des moyens armés, vous pouvez aussi ne pas avoir besoin de sommation. Tout comme quand il y a des voies de fait qui sont exercées sur les forces de l'ordre, vous n'avez pas besoin de sommation non plus. Et ensuite vient le deuxième cadre de l'usage des armes, ou de la force armée en maintien de l'ordre, où là on a besoin de sommation de l'autorité civile, donc ou par le biais du mégaphone ou par la fusée rouge. Là-dessus, je rejoins la dame, les propos de la dame, je me permets juste d'aller.
Allez-y.
En effet, 2014, le drame de Sivens, la mort de Rémi Fraisse, avait donné. Avait produit certaines auditions parlementaires et des travaux dessus. Sure. D'ailleurs, j'y avais humblement participé au nom d'une TGP Police. Et on avait. Il y avait un rapport très intéressant, IGPN, IGGN, qui avait étudié justement l'usage des moyens sur les maintiens de l'ordre, et des préconisations avaient été faites. Malheureusement, c'est le mal français, hein. Je pense que c'est tombé au fond d'un tiroir et qu'on n'en a pas tiré.
Donc, par exemple, quelles préconisations pourraient marcher pour les LBD, par exemple?
Alors, pour les LBD, il n'y avait pas grand chose qui allait dans dans l'idée, c'était, travailler, vous me posiez la question des sommations, c'était justement de travailler un peu plus ce qui se fait en Allemagne sur la communication, le droit des manifestants, leur montrer quand est-ce qu'on va utiliser la force, pourquoi on va l'utiliser, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur les gaz lacrymogènes, par exemple, alors que si on sait qu'il y a un risque et qu'on use la force, la personne informée peut au moins savoir pourquoi.
Et on va y venir, pardonnez-moi, juste parce que ça correspond tout à fait à la question d'Alain. Bonsoir, oui. Alain.
Oui, bonsoir, merci beaucoup pour vos émissions. Et juste une petite demande pour que les auditeurs du 7-9 puissent davantage interroger les invités le matin.
D'accord, enfin, voilà. Si vous êtes entre 19h et 20h et vous avez le temps, on vous écoute.
Parfait, merci beaucoup. Alors une question en fait qui n'est pas tout à fait simple, mais que je pose quand même, et c'est aussi une manière de demander un petit peu à la Ligue des droits de l'homme si elle n'a pas toujours une vision trop angélique des choses. Moi je voulais savoir s'il y avait des critères pour déterminer en fait s'il y avait ou non un nombre de manifestants plus violents, plus radicaux en France que dans d'autres pays européens, ce qui justifierait en fait l'utilisation du LBD, et plus largement si on considère effectivement, ou si on a des critères ou des chiffres permettant de dire que la société française serait une société plus violente que d'autres pays européens.
Merci beaucoup Alain, on va parler de la radicalité des manifestants, pas, mais aussi la réponse que font les autres pays. Patrice Pinozzi, d'abord sur votre côté un peu angélique et bisounours, donc à la Ligue des droits de l'homme, sur le radicalisme des manifestants.
Alors c'est terrible en fait quand on défend les droits et les libertés, parce que on nous renvoie quand même assez régulièrement cette idée d'angélisme. Je crois pas qu'on soit du tout angélique. Je pense que ne pas être pro-répressif, ça n'est pas forcément être angélique, c'est essayer de trouver les meilleures solutions, et si effectivement dire, comme nous le prétendons à la Ligue des droits de l'homme, que en France on doit être capable de pouvoir faire du maintien de l'ordre sans forcément avoir l'usage des LBD, sans forcément heurter et blesser peut-être de façon irrémédiable les manifestants, alors qu'un certain nombre d'autres pays en Europe sont capables de le faire, eh bien je pense pas que ça soit véritablement de l'angélisme. Pour répondre plus précisément à votre question, à la Ligue, on n'a pas de chiffres, parce qu'ils sont quasiment impossibles à déterminer, sur la présence de manifestants plus violents en France qu'ailleurs. Mais d'ailleurs, pour rebondir sur ce qui était dit à l'instant, sur la question des sommations et des...
Que font nos voisins, donc?
Alors, ce que font nos voisins, ils font autre chose. Ils font d'abord du maintien de l'ordre, sans forcément avoir avoir besoin de l'LBD. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le LBD est aujourd'hui une arme en voie de disparition dans le maintien de l'ordre, et la plupart de nos voisins soit n'en font plus usage du tout, soit n'en font usage que d'une façon extrêmement rare. Mais si on réfléchit un instant sur ce qu'on était en train de dire sur la question des sommations, c'est important. Effectivement, il y a eu des réflexions qui n'ont pas abouti. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que lorsqu'il y a des sommations, vous passez d'une situation qui est une situation légale, c'est-à-dire la situation de manifester, à une situation illégale, c'est-à-dire que vous glissez sous le qualificatif d'attroupement, et là, il y a la possibilité de faire l'usage de la force contre vous. Et quand vous savez qu'aujourd'hui, les sommations en France, c'est uniquement une personne qui va hurler dans un hygiaphone, dans un mégaphone, qu'il est temps de se disperser, et qu'il y a simplement une fusée qui est tirée, eh bien évidemment, la plupart des gens ne le comprennent pas, ne le savent pas.
Donc il faut faire des sommations plus claires,
Bien sûr qu'il faut faire des sommations plus claires, il faut expliquer plus clairement ce que sont les sommations, il faut que l'ensemble des manifestants puissent savoir à partir de quand ils glissent d'une situation qui est une situation légale et une situation qui est considérée comme illégale, et donc que l'usage de la force est susceptible de pouvoir être fait à leur encontre. C'est tout cela, c'est de l'éducation et c'est de la formation, et on a un vrai sujet que le gouvernement n'a pas pris en considération sur ces points-là.
Là, en ce moment, Grégory Joron, ça se passe comment entre le moment, donc il y a sommation, il y a un tir de couleur en l'air, ça se passe comment exactement?
Sommation, dispersez-vous, on doit rester à la loi.
Et c'est voilà, c'est juste une deuxième fois. C'est au mégaphone.
Et fusée rouge, en effet, si on engage la force après.
Mégaphone, quand il y a 5000 personnes en face de vous.
Mais c'est
le deuxième mois, on n'entend plus rien.
Non, mais là-dessus, ça fait partie des choses, bien évidemment. Enfin, nous, on n'a aucun débat, ni aucune difficulté à être plus clair dans nos manœuvres.
Si ça marchait mieux, en ce moment, par exemple, entre le moment de la sommation et le moment du tir, il y a combien de temps?
Je pense qu'il y a quand même un minimum de temps pour quand même permettre justement aux personnes qui entendraient les sommations très clairement de se désolidariser des groupuscules violents qui veulent rester pour en découdre. On fait un parallèle avec ce qui se passe un peu sur les autres pays européens. Vous allez en Angleterre, en effet, ils ont pas de LBD, ils ont pas de grenades lacrymogènes. C'est des bobies avec des matraques qui sont très dures parce que eux, ils ont une politique de contact. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un ordre de dispersion, que le bobies lève la matraque, si vous êtes dessous, vous êtes pénalement répréhensible et responsable de vos actes.
Alors c'est vrai que nous, c'est éviter le contact absolument. C'est la doctrine du maintien de l'ordre, on va dire.
Tout simplement parce que qui dit contact dit violence et qui
dit
violence
dit blessure.
C'est ultra violent.
Alors pour le coup là-dessus, sûrement qu'il vaut mieux pas qu'il y ait de contact.
C'est ultra violent.
Mais la question est de savoir s'il y a une autre manière que le fameux LBD ou ces fameuses grenades de désencerclement ou je ne sais quoi pour maintenir la distance en fait.
Je pense qu'il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas une solution miracle. C'est une réflexion globale sur le. Je pense, les trois temps d'un maintien de l'ordre. C'est-à-dire ce qu'on peut faire avant, ce que fait très, très bien l'Allemagne, avec des gros dispositifs de renseignement, d'interpellation, de mise à l'écart de groupes ou d'individus en amont.
Donc loi anti-casseur, en gros.
En gros, voilà. Loi anti-casseur, on va dire. C'est un peu l'idée. Donc donner des moyens avant pour essayer de réduire les risques de ces groupes qui viennent noyauter les grandes manifestations nationales. Ensuite, ce qu'on fait pendant. Donc là, en effet, l'évolution, pourquoi pas des moyens intermédiaires. L'Allemagne a mis le paquet sur les engins lanceurs d'eau depuis des années et des années. Nous, on est un petit peu en retard par rapport à ça, c'est une évidence. On en a très peu, et avec les CRS et la préfecture de police qui sont dotés de ce genre de moyens, qui sont en plus un peu compliqués parce qu'ils ne se prêtent pas à tous les théâtres d'opération. Et ensuite, il y a ce qui se passe après. Et là-dessus, la France, on a un retard qui est terrible, je pense, et c'est là-dessus qu'on devrait aussi travailler, parce que ça peut casser aussi certains sentiments d'impunité chez des personnes violentes qui viendraient manifester et s'en prendre aux institutions, aux manifestants, aux journalistes ou aux policiers, hein, parce qu'on a vu de tout depuis ces dernières semaines. Et là, je pense que les maîtres en la matière, on va dire, si vous me permettez cette expression, c'est des Anglais qui malgré leur méthode très violente
de corps à corps,
ont par contre développé des réponses pénales et ils travaillent essentiellement sur la vidéosurveillance et vont chercher les gens sur le temps d'après. Parce que le problème de judiciariser les maintiens de l'ordre, à mon avis, c'est aussi quelque chose qu'il faut éviter, enfin, je pense, parce qu'à chaque fois qu'on fait une interpellation, ça crée bien évidemment des mouvements de foule, bien évidemment, ça déséquilibre des dispositifs, etc., etc. Donc, tout ça, ça reste, encore une fois, une réflexion globale si on veut avancer comme il faut.
Patrick Spinozzi, d'abord, est-ce qu'on est d'accord, la Ligue des droits de l'homme, sur les lanceurs d'eau ou pas? C'est une bonne
solution,
ça?
Oui, alors, les lanceurs d'eau, évidemment, c'est certainement une meilleure solution que les LBD, puisque c'est une solution qui permet justement de repousser les personnes de la même manière, sans avoir les mêmes conséquences physiques pour les personnes. Mais de notre conversation, on voit bien que on est face aujourd'hui à une difficulté de moyens, difficulté de formation, et que en réalité, comme souvent, il faut une crise forte, comme celle qui est aujourd'hui en train de se dérouler, pour qu'on se rende compte,
que comme précédemment,
on est mal formé, voilà. que aujourd'hui on utilise des moyens d'action qui sont disproportionnés, qui peuvent causer des dommages irréparables. Et la vraie question, c'est que ce qu'on a essayé, nous, de bloquer à la Ligue des droits de l'homme et qui n'a pas abouti, il faut que cet élan et cette réflexion globale, elle puisse continuer à vivre, et ce, dans les mois qui vont venir, pour que, on avance tous ensemble vers une politique de maintien de l'ordre qui soit différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, qui a véritablement montré toutes ses limites. Et on n'en sera que mieux si les forces de l'ordre sont formées à l'utilisation d'autres techniques, et si au final on peut gérer ce genre de difficultés sans avoir sur le terrain des personnes qui sont victimes et qui sont là pour venir manifester librement, et qui sont victimes en réalité autant des casseurs qui viennent noyauter des manifestations que de la réponse à ces casseurs qui est celle des forces de l'ordre. Donc il faut vraiment qu'on avance collectivement ensemble vers un meilleur maintien de l'ordre.
On viendra à la loi dans un instant, évidemment. Je voudrais qu'on écoute Guillaume. Bonsoir, Guillaume.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, Guillaume. Soyez le bienvenu.
Merci. Bonsoir à tous. Oui, je voulais juste te dire que j'étais assez déçu de la décision du Conseil d'État qui, je pense, je sais pas trop sur quoi ils se sont appuyés pour juger. À mon avis, ils sont pas du tout experts du maintien de l'ordre. Ils auraient peut-être dû lire le rapport du Défenseur des droits qui est sorti il y a un an, avant les problèmes des gilets jaunes, et qui était correctement étayé et documenté, et qui démontrait bien que le LBD est beaucoup trop dangereux pour être utilisé en maintien de l'ordre.
Alors, le risque de violence rend nécessaire de permettre aux forces de l'ordre de recourir à ces armes, c'est la phrase du Conseil d'État, effectivement.
Excusez-moi.
Allez-y, pardon, Guillaume.
Oui, juste, j'ai lu un article dans Le Monde il y a 3 jours qui parlait d'une initiative européenne de coordination des polices pour essayer d'harmoniser un petit peu leurs pratiques dans le maintien de l'ordre. Un système qui s'appelle Godiac ou Goriac, un truc comme ça, auquel une dizaine de polices européennes ont participé vers 2010-2011, sauf la police française qui se croyait manifestement au-dessus des autres.
Et on va répondre à cette question très précisément. Merci beaucoup, Grégory Jorion. La police française est la seule à avoir à pas vouloir...
la seule,
pas s'être alliée
pas.
Avec les polices
la seule, je sais
voisines.
Pas, en tout cas, oui, c'est vrai... les forces de police françaises ou le ministère de l'Intérieur ou en tout cas l'État n'a pas participé à ce groupe de réflexion.
Et vous savez pourquoi?
Non, j'ai pas d'informations là-dessus. Je l'ai lu aussi, je le savais également. Après, encore une fois, les techniques de maintien d'ordre, si on parle essentiellement de ça, je rappelle qu'elles sont reprises à 90% par l'OTAN, qu'on va former toutes les polices étrangères aux gestions de foule démocratiques quand il y a des grands événements comme les Coupes du Monde, etc., qui sont organisés dans les pays étrangers. Donc, je suis pas sûr qu'il faille revoir la doctrine d'emploi entièrement, puisque je pense qu'elle est bonne. C'est souvent je pense qu'il faut encore une fois travailler sur les 3 temps et travailler sur les moyens et pas oublier qu'en effet, le maintien d'ordre, c'est une affaire professionnelle avant tout. Après, je pense pas que la police française se sente au-dessus de toutes les autres, et je suis pas sûr non plus, encore une fois, qu'en faisant que des parallèles avec les polices européennes, parce que si on transpose le mouvement des gilets jaunes à l'Allemagne, je peux vous assurer qu'ils auraient énormément de mal à les encadrer, très clairement, parce que les Allemands ont aussi une culture de la manifestation qui est
différente. Peut-être qu'il n'y aurait pas de mouvement gilets jaunes en Allemagne aussi pour un tas d'autres raisons.
Non, mais voilà, tout simplement parce qu'ils ont déjà un rapport au syndicat qui est totalement différent, une prise en compte du dialogue social qui est totalement différent, etc., etc. Donc on arrive aujourd'hui, nous, à gérer ça sur le terrain. Et je suis pas sûr, encore une fois, que les polices européennes face à ce genre de mouvement soient meilleures que celles qu'on a en France.
2 questions rapides. La première sur franceinter.fr. Pouvez-vous nous préciser exactement la répartition des tirs de LBD entre gendarmes, CRS et police? La question se pose parce que vos amis gendarmes vous ont gentiment, ramené un peu dans vos cordes, en fait.
Oui, bien sûr. Ouais.
En disant, c'est pas nous.
Oui, c'est pas nous, non. Bah, CRS, 2200 tirs sur les 9100. Mm. Après, donc, je connais pas la proportion.
9228 tirs en tout, donc, ouais. Police, CRS particulièrement.
2200, les CRS.
2200, d'accord. Ouais. Ah, 2200 sur 9000, voilà. Ok. Et le reste?
Et le reste, je sais pas, j'ai pas le détail, par contre. Les gendarmes, après, oui, ils ont d'autres techniques, c'est des techniques de saturation. C'est-à-dire qu'ils arrivent et ils balancent 10 000 grenades. C'est des techniques qui sont différentes.
Mais c'est marrant, vous parlez pas, en fait, entre gendarmes. Si. Non, mais je dis ça parce que là, en ce moment, c'est la police qui est mise en cause, mais au moment de Rémi Fraisse, c'était la gendarmerie. Oh. Donc, partout, la balle au centre, pardon de toujours, le dire comme
ouais,
ça.
Ouais, non, mais enfin, moi, je pense qu'il faut sortir de ça aussi, puisque on travaille sur les mêmes théâtres d'opération, surtout en maintien de l'ordre. Alors, bien sûr, autant que faire se peut, chacun reste sur ses territoires, entre guillemets. Mais voilà, aujourd'hui, il y a autant de gendarmes qui sont engagés que de CRS et qui affrontent aussi les mêmes risques les samedis. Parce qu'il ne faut pas croire que j'entends violence policière comme si c'était systémique. Voilà, Maître Spinozzi ne va pas me contredire. Je pense que quand on est policier, on est aussi un homme ou une femme et on a aussi droit à une attention particulière quand on va travailler et qu'on risque de perdre 4 dents comme mon collègue samedi à Morlaix. Quoi.
Avant de retourner au standard romain sur l'appli de France Inter, nous dit le LBD est censé être plus précis que le flashball. Comment atteint-on si souvent les visages en visant les jambes? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de visée, on va dire Grégory Joron? Et Patrice Spinozzi, peut-être que vous avez travaillé là-dessus, vous, à la Ligue des droits de l'homme, forcément, sur la visée.
Alors, ce qui est certain, c'est que ce qu'on a vu, effectivement, à la Ligue, c'est qu'il y a un grand nombre de blessures de LBD qui se fait à la tête. Après, précisément, c'est une arme qui a vocation à cibler exactement les personnes. Il faut bien comprendre ce que c'est qu'un LBD. C'est une arme qui a vocation à permettre la neutralisation d'un individu, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Monsieur Joron. L'idée, c'est bien d'aller chercher une personne particulière à 30 mètres pour la neutraliser. Et l'exemple, effectivement, de celui qui aura un cocktail Molotov à la main est un bon exemple. Le problème, c'est que sur les 9000 tirs qui ont été réalisés, il y a beaucoup de tirs qui ne sont pas du tout aussi précis. Et il y a beaucoup de balles de LBD qui se perdent ou en tout cas qui sont très difficiles à véritablement suivre face à des foules. Et on a bien vu qu'il y avait un grand nombre de personnes qui avaient été atteintes par des tirs de LBD, qui n'étaient pas des personnes violentes, et en fait il y a beaucoup de tirs qui ne sont pas des tirs maîtrisés. Il faut bien comprendre que une balle de LBD, elle vous frappe à peu près à 180 joules, et pour vous donner un exemple plus précis,
ouais, une vitesse
en fait un service de tennis qui est tiré à 200 km/h, si vous prenez la balle dans le torse, c'est 90 joules. Donc, une balle de LBD, c'est deux fois, en fait, une balle de tennis qui part à 200 km/h qui vient vous frapper. Donc oui, c'est une arme qui est une arme très dangereuse. Oui, c'est une arme qui est très puissante. Et oui, c'est une arme qui est susceptible d'aboutir à la perte d'un œil ou à des dommages qui sont des dommages irréparables et très graves. Et là-dessus aussi, il faut qu'il y ait véritablement une réflexion qui puisse être menée à plus ou moins long terme. On ne va pas pouvoir continuer, à mon sens, à conserver cette arme dans l'attirail de la force de l'ordre. Il faut véritablement qu'on réussisse à trouver d'autres moyens.
Je voudrais qu'on écoute Sylvain et puis Jean, l'un probablement à la file de l'autre. Bonsoir Sylvain.
Oui, bonsoir madame.
Allez-y.
Merci pour vos émissions. Écoutez, depuis j'habite Nantes, donc, et depuis les événements de la ZAD, il me semble qu'on a franchi un cap au niveau de la violence quant à certains manifestants qui viennent juste pour en découdre avec la police, avec des objectifs qui ne sont pas ceux des revendications, ni ceux des Gilets jaunes ou autres, pour qui a été syndiqué et assisté à des manifestations. Quand on entend les sommations, eh bien, on les entend pour de vrai. Et si on est en première ligne, en tout cas, on sait que c'est le moment de reculer. Et donc, je ne vois pas comment les forces de l'ordre pourraient, pour se défendre presque, utiliser d'autres moyens. Voilà, c'est plus une réflexion qu'une question.
Et merci Sylvain pour votre réflexion. Grégory Joron, est-ce que vous avez le sentiment, vous, c'est un peu ce qu'on disait au début de ce téléphone sonne, que la violence des manifestants, ou en tout cas l'envie d'en découvrir, coudre des manifestants est telle que votre réponse ne peut pas être différente?
En fait, enfin depuis plusieurs années déjà, on le voyait sur les grandes manifestations nationales à Paris. C'est vrai qu'il y a une volonté d'aller au contact. contact des manifestants à l'endroit des premières lignes de forces mobiles ou de policiers qui sont mis en place. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu nouveau. Nous, c'est vrai que c'est voilà, le maintien d'ordre de la française, c'est toujours cette distance qu'on essaye de respecter, de faire respecter pour gérer une foule sans qu'il y ait de contact ou vraiment un minima. Et aujourd'hui, on voit en effet des groupes d'ultra on met qui on veut là-dedans, qui essayent justement de venir en contact pour être violent.
Pourquoi il y a cette réticence vis-à-vis des caméras à pied, des caméras piétons, après tout? Parce que pour les uns comme pour les autres, en fait, pour vous, ça vous permet, si vous êtes accusé de violence, vous pourrez dire, regardez, c'est sur la caméra, et l'inverse est vrai aussi pour les manifestants. Donc, est-ce que ça réglerait pas le souci pour tout le monde,
Alors, sur ce sujet-là, de toutes les façons, ça serait une bonne chose. Ça ne permettrait pas de régler définitivement la question.
Mais le
principe, de toutes les façons, de pouvoir savoir ce qui se passe, est toujours...
Parce que j'ai entendu une réticence qui venait de la part des autorités. Donc, du coup, je me posais la question de la police. Ah. Je me posais la question de la raison pour laquelle il y avait une réticence du côté des policiers.
Alors, ça, il faudrait leur demander. En tout cas, du côté de la Ligue, il n'y a pas de réticence. Ça n'est pas suffisant, si vous voulez. C'est-à-dire que ce que nous considérons, c'est que ça n'est pas la réponse adéquate. C'est pas parce que vous allez mettre des caméras que vous allez régler le problème. La caméra, par nature, elle vous permet a posteriori de déterminer des responsabilités. C'est pas elle qui va vous permettre, le cas échéant, de sauver un œil lorsque il y a un tir
S'il y a eu œil...
Oui, mais c'est très bien de réagir a posteriori. C'est très bien d'aller rechercher les responsabilités. Mais le but, c'est quand même d'éviter les dommages et les blessures. Donc oui, c'est bien, mais ça n'est absolument pas suffisant. Et par ailleurs, je vous dirais sur ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire effectivement la montée en puissance de la violence dans les manifestations, qui est une réalité et qui est ressentie par chacun. La vraie question, c'est une responsabilité nécessairement partagée. Plus les forces de l'ordre vont avoir des armes qui sont des armes qui causent des dommages, et donc qu'il va y avoir des blessures qui sont des blessures graves qui peuvent naître dans le cadre du maintien de l'ordre, plus évidemment il va y avoir une escalade de la violence. Et là, il y a véritablement une réflexion à avoir sur la politique du maintien de l'ordre. Est-ce qu'il faut nécessairement répondre à la violence par la violence? Est-ce que, à l'inverse, la violence n'est pas un aveu de faiblesse, et est-ce que on ne peut pas, justement, quand on est l'ordre, réussir à trouver les moyens pour savoir répondre à la violence sans avoir besoin soi-même d'y recourir avec des moyens qui sont extrêmement agressifs.
Grégory Joron, c'est vous.
Ça serait l'idéal, en effet. Après, si on regarde la réalité aujourd'hui, et encore une fois,
c'est possible, puisque d'autres y arrivent.
Oui, mais pas avec les mêmes mouvements. Encore une fois, je reprends le parallèle avec l'Allemagne, parce que c'est intéressant, c'est celui qu'on cite en exemple tout le temps. Vous savez que la désescalade, elle a aussi deux niveaux. C'est-à-dire que tant que tout va bien, les policiers encadrent de loin et on a les camions à eau, etc., etc. Mais quand ils sont débordés, les Allemands vont au contact. Très durement aussi, et c'est d'ailleurs repris par je crois même le défenseur des droits dans un de ses écrits, qui explique que aussi ça occasionne beaucoup de blessés, parce que une fois qu'ils sont au bout de la stratégie de la désescalade et que malheureusement ça a pas fonctionné parce que les gens veulent pas s'y prêter, parce que c'est bien ça aussi la réalité, et ben ils sont obligés d'engager la force comme tout le monde, et ils engagent la force eux mano à mano, en sachant que la stratégie de désescalade allemande, c'est aussi au départ une stratégie qui est oppressive, et ils mettent énormément de force face aux manifestants. En France aujourd'hui, pour encadrer 50 manifestants tous les samedis, si on se transpose et si on fait le parallèle avec l'Allemagne, il nous faudrait 200 000 policiers. On les a pas.
Alors si on fait le parallèle avec l'Allemagne d'ailleurs, parce que décidément on n'arrête pas de faire le parallèle avec l'Allemagne, mais donc ils ont des espèces d'arrestations préventives.
Il y a quand même bien d'autres pays que l'Allemagne, si vous voulez. Moi je veux bien tout ce qu'on veut.
Regardez Podemos en Espagne, c'est pas rigolo non plus, le maintien d'ordre espagnol.
Ce que je veux dire, c'est que il y a quand même, on voit bien que l'utilisation du LBD aujourd'hui reste un archaïsme, et que l'histoire montrera de toutes les façons que on aboutira à faire du maintien de l'ordre sans l'usage de cette arme à plus ou moins long terme. Il faudra être formé, il faudra que les choses avancent, mais c'est aujourd'hui le sens de l'histoire.
Ce qui est pas un problème pour les policiers, soit dit en passant.
Et alors justement,
où on sera formé avec d'autres moyens, et que surtout l'intégrité physique et des manifestants manifestants et des policiers sera respecté, nous, ça nous va. Hein.
Un autre internaute, le même peut-être d'ailleurs, dit qu'on n'a pas assez répondu à sa question, dont acte, sur comment expliquer que lorsqu'on vise les jambes, on atteint trop souvent la tête en fait. Est-ce qu'on, en gros, clairement, est-ce que c'est aussi une question de formation quand on ne sait pas viser, ou est-ce que c'est inhérent à l'appareil? Mais enfin, quand je me dis qu'il a une vitesse pareille, on doit pouvoir viser et, boum, et aller directement au but, non? Donc les jambes.
Ouais, mais c'est pas que les jambes le but, hein, c'est aussi le torse ou les membres supérieurs. Il n'y a pas que les jambes, le LBD, mais pas la tête, non. Mais je veux dire, entre le torse à 25 mètres, avec sur des personnes qui bougent, sur des situations dégradées, parce que, je veux dire, on, bien sûr que c'est je ne balaye pas d'un revers de main les blessures. Hein. Je vous rappelle, de l'autre côté, que les fonctionnaires, depuis 12 actes, font aussi l'objet de violences qui sont juste hallucinantes. Quoi.
Alors, du coup, je vais reformuler. Si, effectivement, quand vous dites, je comprends ce que vous me dites, si quelqu'un est en train de bouger, bon, ben, on est en train de viser le torse et puis on tombe sur la tête. Alors déjà, honnêtement, de vous à moi, c'est un peu spécieux, mais dont acte. Mais pourquoi pas dire, on ne vise que les membres inférieurs, de toute façon. Comme ça, il y a à peu près zéro chance quand même pour qu'on atteigne la tête quand on visait les jambes.
Ouais, donc encore une fois, si on n'atteint pas les jambes et que la personne est porteur, comme on l'a vu, hein, de bouteilles d'acide, de cocktails Molotov, de pavés qui font 3 kilos, et que vous ratez la jambe, ou alors que vous l'avez, mais quand même, malgré tout, il arrive à avancer parce que vous le... Enfin, je veux dire, on discute de ça tranquillement autour d'une table. Faut juste se mettre 2 secondes, et des journalistes l'ont fait, et même malheureusement un gilet jaune l'a fait samedi du côté des CRS. Bah on l'a vu, il a pris un poteau en plein dans la tête, hein. Donc à un moment donné, il faut se mettre aussi à la place des collègues qui eux font face encore une fois à des jets de projectiles en tout genre, et tous plus dangereux les uns que les autres, et puis se dire bah tiens, finalement ouais, j'aurais dû peut-être viser les jambes, c'est compliqué quand même.
Et se mettre à votre place, c'est ce que fait Jean. Bonsoir Jean.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Voilà, mais pardon pour vos émissions. Voilà, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai assisté aux premières loges à Montpellier sur la place de la préfecture à 2h30 de violence. Et j'étais vraiment aux premières loges. Et le récit que je pourrais vous en faire ne correspond pas à tout ce que j'entends. Parce que moi, pendant ces 2h30, il y avait une destruction systématique du mobilier urbain pour récupérer des pierres sur les trottoirs, etc. Et ils ont canardé les gardes mobiles qui protégeraient la préfecture pendant 2 heures, en poussant des cris de guerre. C'était effrayant. Et bien, pendant ces 2 heures, je peux en témoigner, pas une réponse véritablement agressive des flics qui sont restés là. C'est incroyable. À la limite, nous, les spectateurs qui sont coincés dans cette librairie Giver qui domine ça, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et la seule personne qui a été blessée, c'est un gendarme ou un garde mobile. Voilà, 2 heures de scène d'une violence qui était effrayante. Alors, la particularité, c'est qu'ils se protégeaient, les casseurs, au sein de gilets jaunes qui ressemblaient à vous et moi, enfin, les guillemets, c'est-à-dire, ils n'avaient rien de Black Bloc, et ils reculaient, ils se protégeaient, et pas un est intervenu pour dire arrêtez de casser, enfin, quelque chose. Voilà, c'est un témoignage factuel, filmé d'ailleurs par d'aucuns sur leur smartphone, parce qu'on était tous sidérés de cette violence.
Et merci beaucoup pour...
Du calme olympique. Incroyable des forces de l'ordre.
Merci beaucoup Jean pour ce témoignage. C'est pour vous ça, Grégory Jouron.
On peut finir là-dessus.
Voilà, parfois ça se passe comme ça.
Non mais moi je tiens juste à dire que c'est un témoignage, et heureusement que les forces de l'ordre sont capables de faire preuve de professionnalisme à certains moments. On a 20 témoignages, vous évoquiez effectivement ce qui a pu être filmé. On a 20 témoignages, et en particulier à Montpellier, de situations qui ont bien plus dégénéré que ce que vous êtes en train de dire. Et je pense que l'ensemble des blessés démontrent que, hélas, il y a eu des réponses qui n'étaient pas des réponses proportionnées. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'enquêtes qui sont aujourd'hui engagées à l'encontre de certains tirs qui ont été manifestement des tirs disproportionnés.
Patrice Pénaudy, très très rapidement, la loi anticasseur qui va être votée demain, est-ce que c'est la mauvaise réponse à ce genre de problématique? On voit bien de quoi ça participe. Hein. Ben, on n'a qu'à pas laisser venir les casseurs, mais au fond...
Il faudrait beaucoup plus de temps pour en parler. Oui, évidemment, c'est la mauvaise réponse, parce que c'est une loi qui est effectivement très dangereuse, parce que c'est une loi qui va aboutir à donner le pouvoir à l'administration sans un contrôle suffisant d'interdire à certaines personnes de venir manifester. Et en fait, c'est une loi qui a été prise dans l'urgence, dans l'émotion, ce qui n'est jamais une bonne chose et qui aurait mérité une bien plus grande réflexion.
Le vote, c'est demain en tout cas, et on en parlera évidemment sur France Inter. Merci à tous et à vous tous pour vos nombreux appels également. Portez-vous bien.